à l'esprit que vous êtes face à des non-chrétiens si vous ne lisez jamais la Bible. Hein. C'est clair. Cet esprit ne peut se servir de ce que nous nous aurons préparé dans l'intimité de notre relation avec Dieu. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas nous concentrer sur ce que nous avons à dire, c'est de comprendre, d'aimer notre interlocuteur. Parce que les occasions de témoigner sont rares. Parce que le temps que nous avons pour témoigner, c'est court. Les gens ne nous donnent pas forcément une heure pour présenter l'Évangile. Alors, nous ne devons pas essayer de balancer toute la sauce, tout l'Évangile. Jésus ne le fait pas. Il ne fait pas ça. Il énonce une vérité, une seule. Un thème, un sujet, une vérité, ça suffit. Jésus était un communicateur hors pair. Hein, dans ce domaine-là, il a tout inventé. Et c'est vrai que dans une société aujourd'hui qui privilégie l'image et qui se déshabitue de la parole, on en a discuté avec Michel et Loïs, il faut prendre exemple sur Jésus qui utilise une parole imagée. Et c'est le quatrième point de la méthode de Jésus, utiliser une parole imagée. Jésus utilisait des paraboles. Eh bien, notre communication de l'Évangile doit aussi être agrémentée de paraboles, d'anecdotes, d'expériences vécues, d'illustrations qui permettent de mieux saisir les vérités de l'Évangile. Vous savez, c'est la seule manière de faire écouter l'Évangile aujourd'hui. Elle doit vivre dans l'esprit des auditeurs. Ils doivent comprendre de quoi il s'agit. Et Jésus n'utilisait pas un discours théologique ou bien des images religieuses. Dans ses paraboles, il prenait toujours des illustrations de la vie courante que les gens pouvaient comprendre. C'était quelque chose de très simple. Un semeur sorti pour semer. C'était très simple à comprendre pour les gens. Il parvenait, par la simplicité, à rendre compréhensifs des concepts qui étaient totalement nouveaux pour ces gens-là. Nous avons cet effort à faire aujourd'hui dans une société qui ne connaît plus rien à la Bible. Les gens d'aujourd'hui raffolent des histoires. On le voit. On le voit dans le succès des émissions télévisées de type psychologique. Vous savez, Jean-Luc Delarue, avant ses problèmes avec la justice, Mireille Dumas, ce sont toutes des émissions extrêmement populaires. Les gens aiment, ils raffolent des histoires vraies. Alors, ce que nous devons raconter, c'est notre histoire. Notre histoire, racontons notre histoire. Racontons ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Le fabuleux destin de Marc Van de Hoer, Michel Viguier, etc. Racontons-leur ça. Votre histoire. Autrefois, nous étions ténèbres, maintenant on est lumière. Quel changement formidable s'est passé dans notre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si les incroyants peuvent toujours contester nos arguments, ils ne peuvent pas contester le changement de vie. Donc Jésus-Christ était un communicateur hors pair. Et comment communiquait-il? Eh bien, il parlait par slogans. Des slogans tels que « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».« Je suis le bon berger », »,« Je suis le pas de vie ». Il arrivait à énoncer des concepts profonds en quelques mots. Moi, je me dis, quand je lis ce que disait Jésus, quelle économie de mots dans sa bouche. Oh là là. Sa sobriété, sa simplicité, c'est impressionnant. Quel contraste hein, entre la logorée de schtroumpf à lunettes qui nous caractérise parfois. On a tellement peur de rater l'occasion. Donc on veut toujours en faire trop. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la communication de Jésus était souvent... On se dit, mais c'est... Comment est-ce que les gens peuvent comprendre l'Évangile avec ce qu'il a dit? Ça paraît tellement lacunaire. C'est comme s'il présentait l'Évangile en pointillé. C'est un peu comme ces jeux télévisés, là, on avait tous vu, où vous devez trouver une énigme. Vous avez un texte et il manque des mots. Ben, c'est un petit peu comme ça que Jésus présente l'Évangile. Il faut quand même bien se dire que pour tous ces gens-là, c'était difficile à comprendre ce que Jésus disait. Nous, on a l'ensemble du tableau, là. Mais pas eux. Donc, il laissait des blancs dans l'Évangile pour que les gens les découvrent. Et son but, c'était de laisser la personne faire une part du chemin. C'est le cinquième point. Laisser la personne faire sa part du chemin. Un jour, je discutais avec mes collègues et on a l'habitude, on est l'équipe la plus soudée de toute la division. Il y a 7 équipes et je dois dire que mes collègues sont, mes inspecteurs sont d'une parfaite loyauté. On est très soudés, on discute assez rarement. par rapport à toutes les autres équipes, et on a institué quelque chose aussi. Tous les matins, on a un temps ensemble, on prend un café ensemble. On le prend pas au bureau, on le prend juste à côté du bureau, là, il y a un troquet. On va prendre notre café ensemble, on fait notre petite réunion d'équipe là-bas et on parle de tout et de rien, et parfois du travail. Bon, je ne suis pas dans une entreprise privée. Et donc un jour, il y a eu cette question de l'homosexualité, parce que vous savez sans doute que la Belgique est un des pays qui a autorisé le mariage homosexuel. Et donc j'ai essayé d'amener la conversation sur le point de vue biblique, bien évidemment, on parlait de ça. Et puis à un moment donné, donc, je leur ai dit que la Bible expliquait clairement les dérives de l'homosexualité. Et un de mes collègues m'a demandé, mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Difficile, hein? Alors je lui ai dit, est-ce que tu as une Bible? Il m'a dit oui. Eh bien écoute, tu lis dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains ce que la Bible dit à ce sujet, et puis on va en parler. Alors, comme c'est un sujet polémique, ce sont tous des sujets extrêmement difficiles, il vaut mieux qu'ils lisent directement la parole de Dieu que d'entendre quelqu'un qui explique peut-être maladroitement hein, ce que la parole de Dieu dit sur un sujet sensible, tiré hors du contexte, on est très vite mal compris. Je n'ai pas donné toute la réponse, parce que de toute façon, s'il est vraiment intéressé, il va lire à voir de lui-même, et s'il n'est pas intéressé, peu importe ce que je vais dire, ça n'aura aucun impact. Quelque temps après, le sujet est revenu sur le tapis. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu as lu Romains chapitre 1? Il m'a dit non. Je lui ai dit, va lire Romains chapitre 1. Et j'attends. Et j'attends qu'il soit prêt, mais le travail continue. Peut-être qu'il ne sera jamais prêt. Mais je ne peux pas le forcer à faire cela. Et Jésus faisait la même chose. Rappelons-nous que quand le jeune homme riche est venu devant Jésus, il est dit quoi? Jésus l'ayant regardé l'aima. On est sûr que Jésus aimait profondément ce jeune homme, mais que quand ce jeune homme a entendu la parole de Jésus, hein, va vendre tout ce que tu as et donne tes biens aux pauvres, il a fait demi-tour, il est parti. Jésus ne lui a pas dit, reviens, t'as pas compris, reviens, écoute, je vais encore t'expliquer, non. Je veux dire, on doit respecter la liberté des gens autour de nous. Donc Jésus amenait souvent ses interlocuteurs à découvrir et à énoncer eux-mêmes les vérités spirituelles. Et là, on a un bel exemple. Dans Luc 10, 25 à 28, un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Question qu'on lui a posée souvent. Jésus lui dit, est-ce que Jésus a donné la réponse? Non. Il a dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu ?» Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Jésus savait que toute vérité qui est découverte, qui est exprimée par son interlocuteur sera beaucoup mieux acceptée que si nous l'énoncions nous-mêmes. Et Jésus a utilisé en fait le socle de connaissances bibliques qu'avait cette personne, de connaissances donc de la loi de Dieu pour communiquer avec lui. En Romains 7, verset 1, l'apôtre Paul écrit, je m'adresse à des gens qui connaissent la loi. Donc, il ne leur parlait pas n'importe comment. L'épître aux Romains n'est pas écrite comme les autres épîtres. Là, il s'adressait à des gens qui connaissaient la loi. Et donc, on doit toujours essayer d'identifier le socle de connaissances minimales, chrétiennes, bibliques, qu'ont les gens pour essayer de leur faire énoncer les vérités qu'ils connaissent peut-être. Sixièmement, il faut prendre conscience du chemin à parcourir. Nous devrions constamment avoir à l'esprit que la personne a du chemin à faire. On l'a dit tout à l'heure, c'est un processus qui consiste à semer, arroser, récolter, ça prend du temps. Au moins, la personne doit passer par trois étapes. Elle doit, premièrement, recevoir l'évangile, première information. Deuxièmement, elle doit le connaître, le comprendre. Hein, ça, c'est le deuxième stade. Bon, il y a peut-être... Et troisième stade, c'est de croire. Au moins, il y a ces trois étapes. Il y en a peut-être encore d'autres, etc. Il y en a qui ont une échelle encore plus étendue de la compréhension de l'Évangile. Mais Jésus exprime ces trois étapes dans sa prière sacerdotale. Il dit dans Jean 17, verset 8, « Ils ont reçu les paroles que tu as données. » Deuxièmement, ils ont connu que je suis sorti de toi, donc ils ont compris. Et troisièmement, ils ont cru que tu m'as envoyé. Et nous, on doit être conscient que la personne doit passer par ces trois étapes et qu'à chacune des trois étapes, elle peut mettre fin à la communication, interrompre le processus. En suscitant la curiosité, Jésus incite la Samaritaine à l'écouter, premier point, et à recevoir ce qu'il dit. Et puis, il utilise une image, la source, l'eau vive, et il explique l'évangile de manière à ce qu'elle le comprenne, qu'elle comprenne le rôle que Jésus jouait. Finalement, elle arrive à la compréhension du fait que Jésus est peut-être bien le Christ. C'est formidable. C'est ce qu'elle avait besoin de comprendre. Et enfin, verset 26, justement, il va se révéler et il va inviter cette femme à croire en lui. On voit que lorsqu'elle quitte Jésus, elle n'a pas encore vraiment terminé son processus de guérison, son processus de conversion, de nouvelle naissance. Elle laisse sa cruche à ses pieds, tout en symbole, le symbole du péché, puis elle va vite vers la ville, elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Elle est à ce moment-là suffisamment éclairée pour faire cet acte de volonté nécessaire, sans lequel aucune nouvelle naissance n'est possible, aucune repentance n'est possible. Et ça nous permet de souligner le septième point, que le processus de décision est différent d'un individu à un autre. Septièmement, le processus de décision est différent d'un individu à un autre. On a bien compris que chaque personne a besoin d'une présentation différente en fonction de son vécu, de sa personnalité, de l'évangile, mais on a tendance parfois à faire de l'acte de conversion un acte unique. On a des schémas, on a des traditions, nous les protestants évangéliques, on a beaucoup plus de traditions qu'on ne le pense. On sait que, bien sûr, la conversion, c'est une double démarche de foi et de repentance, mais ça reste avant tout une expérience personnelle. Il faut ces deux étapes, mais chacun vit cela différemment. Et Jésus nous montre qu'il n'est pas nécessaire de surajouter des mots à une expérience de conversion pour qu'elle soit authentique. Il ne court pas derrière la femme samaritaine pour lui faire réciter une prière type. Et lorsque, un autre exemple, dans Luc 7, cette femme pécheresse qui répand ses larmes et du parfum sur les pieds de Jésus qui essuie ses pieds avec ses cheveux, Jésus ne lui dit que trois courtes phrases pour clarifier sa conversion. Il lui dit « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. » C'est tout. Et nous, on estime parfois que si les gens n'ont pas prononcé une formule rituelle, n'ont pas dit la prière de conversion, s'ils n'ont pas dit des mots qu'on considère presque magiques, leur conversion n'est pas authentique. Attention à ne pas faire rentrer les gens dans notre schéma personnel de la conversion et de rétrécir pour eux l'entrée dans le royaume des cieux. Un peu comme les pharisiens à qui Jésus faisait le reproche aux pharisiens d'empêcher d'entrer dans le royaume ceux qui veulent entrer. Attention, je veux dire, pour chacun, le processus de conversion est différent. Nous l'entendons lors des baptêmes, des témoignages lors des baptêmes. Enfin, dans le dernier point, j'aimerais traiter ce qui apparaît en filigrane de tout l'entretien de Jésus avec cette femme. C'est la douceur, l'importance de la douceur. Et c'est un thème récurrent dans la communication de l'Évangile. Et aujourd'hui, dans notre époque actuelle qui ne supporte plus les intégrismes, qui ne supporte plus le radicalisme religieux, c'est très important de manifester ce trait de caractère chrétien, ce fruit de l'esprit qui est la douceur. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, chapitre 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Ce n'est pas seulement l'Évangile que nous devons faire connaître, c'est ce que l'Évangile a fait de nous. C'est ça qui est important aussi. Ce n'est pas seulement l'Évangile que nous devons faire connaître, c'est ce que l'Évangile a fait de nous. Rappelez-vous ce qu'étaient Moïse, Pierre et Paul avant leur conversion. Les hommes qu'ils étaient. Mais leur métamorphose la plus remarquable, c'est la transformation de leur caractère. Moïse était un meurtrier. Il est devenu un homme fort doux, fort patient, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre, nous dit Nombre 12, 3. Pierre, c'était un impulsif, un brutal. Et c'est lui qui nous exhorte à sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur de façon à être toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Et Paul, qui respirait la menace et le meurtre, nous dit, le livre des Actes, une fois qu'il est devenu l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2,7, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. À Timothée, il écrit que le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il lui rappelle dans 2 Timothée 2,25. Dans 2 Timothée 3,10, il dit, il lui rappelle que Timothée a suivi de près son enseignement, sa conduite, ses résolutions, sa foi, sa douceur. Il poursuit, chapitre 4, verset 2, dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, on s'arrête souvent là, avec toute douceur. » Et à Tite, chapitre 3, verset 2, il écrit de rappeler aux chrétiens d'être plein de douceur envers tous les hommes. Moi, j'étais frappé par l'importance de cet enseignement sur la douceur dans la communication de l'Évangile. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens de conviction que nous devons transmettre nos convictions avec agressivité, avec supériorité. Jésus est venu à nous comme un roi, plein de douceur, nous dit Matthieu 21,5. Et dans la démarche de Jésus avec la Samaritaine, il n'y a aucune violence. Pas de violence dans l'attitude, pas de violence dans les propos, pas d'agressivité, pas de brutalité, aucun jugement même. Il lui dit tout ce qu'elle a fait, mais il ne lui fait pas le moindre reproche. Évidemment, il la met en face de son péché, c'est clair. Il n'y a pas de complaisance dans l'attitude de Jésus, hein. Il lui dit tout ce qu'il a fait, mais il ne l'accuse pas une seule fois. Et avec la femme adultère, c'est la même chose. Il a dit, je ne t'accuse pas non plus, mais va et ne pêche plus. Bien sûr, aucune complaisance. Il n'a pas de sympathie pour ce qu'elle fait, mais il la respecte, elle. Et il y a chez cette femme une espèce d'arrogance. Il y a un air de défi. Elle prend Jésus de haut, elle se moque un peu de lui. Elle dit, mais tu n'as rien pour creuser, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a creusé ce puits? Elle l'attaque un petit peu, hein. Alors, quand on est attaqué, nous les chrétiens, on a envie un peu de moucher à notre interlocuteur. Même pas ça. Mais pas du tout, pas Jésus. Il ne cherche pas à lui rabattre son caquet. Il ne cherche pas à gagner le duel oratoire. Trop souvent, en fait, nous cherchons à gagner le match. Nous voulons être celui qui apporte le dernier argument. C'est une erreur, parce que chaque fois que nous gagnons, l'incroyant est perdant. Ça veut dire qu'il est souvent même perdu. L'important n'est pas d'avoir raison. D'ailleurs, dans la postmodernité, tout le monde a raison. C'est une caractéristique de la postmodernité. L'important, c'est de démontrer l'amour du Christ. Si la personne n'est pas convaincue par nos arguments, la façon dont nous développons nos arguments va peut-être la convaincre. Puissions-nous tout perdre, comme le Seigneur Jésus qui a tout perdu à la croix, pour que les pécheurs gagnent tout. Il a accepté de tout perdre pour que nous gagnions tout des pécheurs. L'apôtre Paul, dans sa première épître à Timothée, assimile la vie chrétienne à un combat spirituel, mais il ne faut pas se tromper d'ennemi. Comme il le dit lui-même, nos ennemis ne sont pas de chair et de sang, mais ce sont des ennemis spirituels, et nos armes ne sont pas charnelles. La violence n'a aucune justification, l'agressivité n'a aucune justification pour le chrétien, qu'elle soit verbale, comportementale ou même dogmatique. Vous savez, on peut faire très mal avec la tronçonneuse de la loi. Hein. Ça, c'est bien vrai. Si nous devons être fermes sur la vérité de l'Écriture, la façon dont nous défendons cette vérité doit démontrer que l'amour fait aussi partie de cette vérité. On est tellement arc-bouté sur nos positions à défendre qu'on oublie que dans ces positions, il y a l'amour. Le signe de maturité chez un chrétien se traduit, comme l'écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4,15, a professé la vérité dans l'amour. Donc on ne doit pas faire de la vérité un prétexte pour ne pas aimer, mais on ne doit pas faire de l'amour non plus un prétexte pour ne pas être vrai. Il y a toujours cet équilibre à trouver. Voyez-vous, l'homme de la postmodernité attend autre chose que les intégrismes de tous bords qu'il rejette aujourd'hui. Il veut voir des hommes et des femmes qui lui disent tout ce qu'il a fait, mais qui sont prêts à l'accueillir, parce qu'ils sont eux aussi des pécheurs. Il veut voir en nous des gens qui sont capables de beaucoup aimer, parce que nous souvenons que le Seigneur nous a beaucoup pardonné. Alors, nous arrivons à la fin de ce séminaire, en tout cas de la partie exposée. Il y a encore pas mal de choses à dire, certainement sur l'attitude de Jésus et l'approche de Joseph dans le témoignage. Je vous invite à relire ces passages en essayant non pas de vous calquer sur l'enseignement de ces passages, mais sur l'attitude de Jésus et de Joseph, leur façon d'être, et d'essayer d'en tirer vraiment encore plus d'enseignement pour vos vies. Je ne dis pas que si on applique tout ça, la communication de l'Évangile deviendra facile. Non. Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que ce serait facile. Il a dit que ce serait difficile. De plus en plus difficile en avançant dans le temps. On le sait que c'est de plus en plus difficile. On est confronté à l'apostasie. Mais nous pouvons éviter de la rendre plus difficile encore. Notre but, c'est que les gens comprennent, reçoivent et comprennent la bonne nouvelle. Il faut au moins cela. La conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas notre rôle. Il faut que les incroyants puissent choisir ou rejeter Jésus-Christ en connaissance de cause, qu'ils nous écoutent au moins jusque-là. Et comme je disais tout à l'heure, il faut gagner le droit de leur parler. Ça se mérite, ce droit de leur parler de l'Évangile, ça se mérite. Et tout ce que nous mettons de nous-mêmes dans les relations, le témoignage doit s'estomper. Ce n'est pas ce que nous disons, ce que montrons qui doit s'imprimer dans les esprits, c'est Jésus-Christ, l'attitude de Jésus-Christ dans notre vie qui doit transparaître. Vous savez, c'est ce qui a été important. Cette femme, cette Samaritaine, elle est rentrée dans la ville de Sichar, elle l'a dit, elle a rendu témoignage de Jésus, elle a dit. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui a fait la différence dans cette ville, parce qu'il a été rencontré personnellement comme le sauveur du monde. Et les habitants de la ville ont dit à cette femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Nous nous sommes là pour amorcer le contact entre les non-croyants et Jésus, et puis nous nous retirons pour que ce soit Jésus seul, hein, qui apparaissent. C'est vrai que ce que nous pouvons faire individuellement ou collectivement est si peu, mais ça peut faire une énorme différence. Le témoignage d'une femme a changé toute une ville. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Un seul témoignage. Le témoignage de Joseph a changé toute une région. Alors je ne sais pas si nous verrons encore des situations de ce type en Europe, mais moi j'y crois. Je crois que le Seigneur peut vraiment provoquer cette transformation par un seul témoignage. Et plaise à Dieu que ce soit le nôtre, car rien n'est impossible à Dieu. Alors sortons de l'humainement possible et entrons dans le domaine du Dieu de l'impossible qui veut faire connaître son amour à un monde qui en manque cruellement. Amen.